L'émission sur Radio Évasion. Creuser le Finistère, labourer les circuits courts, plonger au fond.
SLM Sport aujourd'hui. Bonjour Fred.
Bonjour Pierre-Yves.
Alors ton invité aujourd'hui, c'est Pierre Decroix.
Et oui, mon cher Pierre-Yves, nous recevons aujourd'hui Pierre Decroix, ancien tennisman qui est devenu par la suite entraîneur de tennis professionnel. Un jour, il a décidé de tout plaquer pour venir s'installer dans son Finistère natal, pour se réinventer. Il commence une carrière de musicien après s'être retiré des cours. Et on en profitera aussi pour parler un peu de son actualité musicale.
Avant de retrouver ton invité, on fait le point sur l'actualité sportive du week-end avec Hugo, qui revient sur les derniers exploits brestois. Oui, ça fait du bien de le dire.
Les évadés du sport, sur Radio Évasion. Hugo Lebeuz.
Bonjour à tous et bienvenue sur Radio Évasion. Vous écoutez Les évadés du sport, votre flash autour de l'actu sportive bretonne. Au sommaire de votre flash, un point sur la dynamique exceptionnelle du Stade Brestois et le coup de moins bien du FC Lorient en Ligue 1 de football. Un retour sur la victoire spectaculaire des Billets de Quimper en premier de basket contre Rouen. Pour conclure, nous évoquerons le redressement du Quimper Volley en deuxième division féminine. On débute ce flash en évoquant les performances contrastées de nos clubs bretons en Ligue 1 de football. Le Stade Brestois a enchaîné un troisième succès consécutif en s'imposant magnifiquement 4-0 face au Racing Club de Lens. Dans un Francis Leblay en ébullition, Steve Mounier, Brendan Chardonnay, Romain Fèvre puis Jérémy Ledouaron ont offert au TISF un succès de prestige plus que mérité. Cette série victorieuse permet aux hommes de Derzakarian de sortir des eaux troubles de la zone de relégation et d'occuper désormais la 13e place du classement. De son côté, le FC Lorient s'est incliné 1-0 sur la pelouse d'Angers à la suite d'un pénalty controversé. En manque d'idées et de panache, les Merlus qui comptent beaucoup d'absents dans leur rang connaissent ainsi un 6e match sans succès et occupent la 14e place de la Ligue 1 avec seulement 2 petits points d'avance sur le barragiste Clermont. Place au basket, les Béliers de Quimper ont profité de 2 matchs consécutifs à domicile pour retrouver le chemin de la victoire. Le succès acquis plutôt aisément face à Rouen sur le score de 105-64 a permis aux hommes de Laurent Foirest de remonter à la 10e place du classement de Pro B après une mauvaise série en dehors de leur base. Les Béliers défieront prochainement Saint-Vallière qui n'a gagné que 2 fois depuis le début du championnat. Parlons désormais volley. Les filles du Quimper volley se sont nettement relancées dans la course au play-off pour l'accession à la première division. La victoire nette et sans bavure, sur le score de 3-7-0 face à un concurrent direct de tel que Saint-Dié, redonne espoir aux joueuses de François-Xavier Garnon dans leur quête de top 3. Nos Quimperoises devront vite valider ce regain de forme dès le 27 novembre sur le parquet de Clamart. Merci à tous d'avoir suivi ce flash. On se retrouve bientôt sur Radio Évasion et je vous laisse avec Pierre-Yves et Fred.
Et merci Hugo. Et puis on rappelle, prochain match du Stade Brestois, ce sera contre Bordeaux à l'extérieur dimanche à 15h. Et bien maintenant, retrouvons l'invité de Fred, Pierre Decroix, est avec nous en studio. Comme tu l'as dit tout à l'heure, Fred, Pierre est un ancien tennisman devenu musicien.
Et oui, comme pour notre invité du jour, les exemples de sportifs reconvertis dans la musique sont légion. En effet, la liste est longue et il y a de quoi faire. Dans les plus connus, Yannick Noah, Jean-Pierre François, Laurie, Matt Pokora.
Laurie, t'as...
Ouais, Laurie, patineuse. Okay. Plus surprenant encore, Jules Julio Iglesias, Rock Voisine, deux sportifs qui ont arrêté après s'être blessés. Et parfois, naissent même des ovnis musicaux. Souvent des fouteux, il est vrai. On a Basil Boli et Chris Waddle, Tony Parker, Florence Artaud, Pascal Olmeta, Marius Trésor, Joël Batz, Yuri Djurkaeff. Nos voisins étrangers ne sont pas non plus en reste. Les plus connus, Manny Pacquiao et Mike Tyson pour les boxeurs, Carl Lewis, Matti Nikanen qui était sauteur à ski, Shaquille O'Neal et bien sûr dans le tennis Serena Williams et John McEnroe. Les sportifs soutiennent parfois aussi des causes en chanson. 45 footballeurs contre le sida, les restos du cœur. Notons enfin que la musique accompagne souvent les événements sportifs. Dans les stades, les hymnes nationales ou les hymnes des clubs. De nombreux sportcos qui utilisent la musique pour rythmer les temps morts. Ou encore les formats comme les X-Games où la musique est omniprésente. Elle fait même parfois partie intégrante de certaines épreuves, en GRS, en danse, en patinage. Le breakdance a fait son entrée au JO. Et à l'heure de l'avènement du e-sport, à quand les compétitions de Guitar Hero au JO ?
Ouais, donc là, en gros, le thème de l'émission, hein, c'est sport et musique, c'est ça ?
Complètement.
Bonjour Pierre.
Bonjour, merci de me recevoir.
Alors peut-être pour commencer, Pierre, nous on s'est déjà rencontrés l'an passé pour la chronique de Virage.
Voilà,
où tu nous as parlé de ta reconversion, mais peut-être tu peux nous redire comment de bons joueurs régionaux, on se retrouve à devenir coach d'un joueur du top 100 en tennis.
Pas mal de hasard. Enfin, j'étais parti quand même pour passer mes diplômes d'entraîneur, donc voilà, là, j'ai fait ça au Krebs de Poitiers. Et après, on est dans le tennis, et ça s'est fait parce que lors du tournoi, il y a un tournoi Challenger à Brest, et là, j'ai rencontré un joueur de tennis qui j'ai filé un petit coup de main au départ, et puis ça a pris de plus en plus d'ampleur.
Ouais, voilà. Ça a matché, il est passé, je crois, donc de la 90e à la 22e place mondiale quand tu le coachais.
Absolument.
Bon, très bien. Et c'est vrai qu'après, finalement, tu disais aussi dans certaines interviews que, comment on se retrouve de quitter cette carrière d'entraîneur, là, comme ça, et tout plaquer pour arriver à retaper une ruine en presqu'île de Crozon et devenir musicien.
Ouais. Bah, c'est parce que c'est juste pour se mettre un peu droit par rapport à soi-même, je pense. Ça arrive un moment dans notre vie. Je voulais faire ça depuis longtemps. Enfin, j'avais l'idée de faire ça depuis longtemps. Et la vie qu'impliquait d'être entraîneur de tennis à haut niveau me plaisait plus trop. Donc à un moment, j'ai décidé d'y aller parce que le temps passe vite.
Ouais, alors c'est vrai qu'on est tous un petit peu paillettes. Hein. Donc tu dis dans une interview au Telegram l'an passé qu'en fait, il y a beaucoup de paillettes, on gagne bien sa vie, mais il manque pas mal de trucs. Et en fait, ce genre de boulot, quand tu perds la flamme, c'est fini. Mais c'est quoi ton plus grand souvenir, par exemple, toi en tant qu'entraîneur ? Ou joueur
En tant qu'entraîneur, je sais pas. Je pense que c'est sur le travail à long terme d'avoir rencontré ce gars qui était 90e mondial, d'avoir senti qu'il avait un truc incroyable, parce que c'est un mec complètement atypique dans le parcours et dans le jeu.
Ouais, pour resituer, là, Jérôme Guelmar, à son apogée, 22e au classement ATP, c'est quoi? C'est fin des années 90
Ouais, début des années 2000.
Début des années 2000,
ok. Oui, c'est ça, oui. Gaucher, donc voilà, généralement les gauchers au tennis, c'est des gens un peu des gens spéciaux, voire dans la vie tout court. Le grand souvenir, c'est ça, c'est de franchir toutes ces étapes ensemble pour lui faire comprendre qu'il pouvait aller beaucoup plus haut que ça. Donc voilà, c'est un beau chemin.
Et le sport, c'est totalement derrière toi aujourd'hui ?
D'un point de vue professionnel, ouais, mais pas dans ma vie personnelle, c'est un équilibre. Je continue à faire beaucoup de sport, en fait.
Ouais.
Ouais, j'en ai besoin, ouais.
Ça fait partie de l'équilibre, quoi.
Ça fait partie de l'équilibre. Et en plus, la musique, en tout cas, telle que moi, je compose et j'écris, il y a des moments, ça prend quand même bien la tête. Et il y a besoin de s'aérer. Et moi, j'ai rien trouvé de mieux de m'aérer la tête que de faire du sport, en fait. Ça te nettoie complètement et tu reviens, tu te remets à ta
page.
Pas
la musique.
Pardon ?
Et pas la musique pour se nettoyer la tête.
Si, la musique pour se nettoyer la tête, mais quand t'es en train de plancher sur un truc, la musique, ça nettoie la tête, mais quand t'es en train de buter sur un texte ou un truc comme ça, t'as besoin de... Faut lâcher le truc. Ouais, c'est ça, ouais.
Bon, et en fait, du coup, moi je sais que quand je t'avais rencontré, je t'ai dit, finalement, est-ce qu'il faut retourner une raquette pour en faire une guitare, que t'as finalement un gros point commun avec John McEnroe, quoi. Donc c'est pas rien, voilà. Bon, en tout cas...
Est-ce que tu as le même caractère que John McEnroe ?
Non, quoi que ça peut arriver quand même, en fait.
Ouais, et puis il y a le délire de péter sa raquette sur le court ou casser sa guitare sur scène, tu vois.
Je serais trop respectueux de ma guitare pour faire ça, quoi. Ouais.
Et toi, en fait, aujourd'hui, est-ce que tu vois un petit peu des similitudes? Parce que je crois que quand on est sportif de haut niveau, finalement, on répète des gammes. Et finalement, c'est des termes empruntés à la musique. Donc on peut se dire qu'on peut rapidement faire un lien. Toi, est-ce que tu l'as vérifié de ton côté?
Ouais, je pense vraiment. Alors... Je pense que dans le sport de haut niveau, il y a une exigence incroyable. Et pour arriver à être professionnel, c'est des mecs qui ont commencé vachement jeunes. Dans la musique, alors la musique, il y a plein de musiques différentes. Dans la musique classique, j'en suis absolument certain. Pour être un concertiste incroyable, les mecs, ils font 5 heures de gamme par jour. Dans le rock aussi, le problème, c'est qu'on a un peu une mauvaise image du rock, parce qu'avec tous ces mecs qui sont allés très vite et qui sont partis très vite... avec toutes les dérives et du monde de la nuit que ça peut avoir, mais c'est quand même des gens qui travaillent beaucoup. Quoi qu'il en soit, il n'y a pas un mec qui soit là où il est sans avoir rien fait, à part peut-être des trucs formatés où les gens font rien que d'interpréter. Et même là, je suis certain qu'il y a, tout le temps du travail. Donc là, il y a des similitudes, évidemment, ouais, dans la rigueur qu'il faut, dans pratiquer son instrument ou son sport. Et ouais, c'est sûr.
Ouais, et donc, après, parmi ces sportifs que tu as côtoyés, toi, est-ce que tu as constaté, par exemple, parce qu'on parle de showman aussi sur les cours, on parle de c'est comme une grande industrie du spectacle, le sport professionnel aujourd'hui aussi. Donc, c'est sûr que, voilà, on peut se dire que les compétences qui sont mises dans le sport, il faut aussi des showman. Donc, voilà, donc après, ça va très vite de glisser vers la scène ou le cinéma, parce qu'on parle pas de cinéma, mais il y en a des exemples
très nombreux aussi. Oui, c'est sûr, bien sûr. L'industrie du sport, en tout cas, le tennis aujourd'hui, c'est clair que c'est un énorme show. Les mecs qui rentrent sur le terrain, il y a de la musique dans tous les sens et tout est fait pour. Donc il y a vraiment des similitudes dans les showman, frontman. Ouais.
Ouais. Ouais, tu as abordé la question de la prépa mentale quand tu étais coach aussi. Tu t'occupais de cet aspect avec Jérôme Golmar.
Ouais.
C'est quelque chose qui te sert pour ton quotidien de musicien. Est-ce que c'est un truc, par exemple, en termes d'approche d'un événement, est-ce que c'est un truc que tu partages avec tes musiciens, par exemple?
Ouais, complètement. Tout le monde a une approche. Enfin, quand il faut monter sur scène ou quand il faut rentrer sur un terrain pour une grosse échéance, il y a ce qu'on appelle le track qui arrive. Et chacun a ses façons de le conjurer. Mais moi, d'avoir eu à avoir joué des gros événements sportifs où, quand j'étais entraîneur, à un moment, je stressais tellement, je me suis dit, c'est pas possible, il faut que je prenne de la distance, je vais pas pouvoir être comme ça chaque match, chaque jour. Donc, j'ai acquis petit à petit de prendre une certaine distance, juste de trouver la confiance dans le fait de s'être préparé bien pour l'événement. Et derrière, juste se concentrer sur le plaisir du truc. On stresse à fond jusqu'à ce que ça démarre, que ce soit le coup d'envoi ou les premières notes du concert. Et une fois que c'est lancé, normalement, c'est parti, quoi.
C'est le même. Est-ce que c'est le track qui peut inhiber? Parce qu'on entend souvent parler, avant un grand événement sportif, les sportifs, dans les déclats d'avant-match, qui vont dire faire attention à la gestion du stress et pas avoir un stress justement négatif, celui qui t'inhibe. Justement, en musique aussi, c'est celui-là dont il faut se méfier.
Ouais, absolument. Après, la gestion mentale de cette histoire, ça dépend vachement de chacun, en fait. Ça dépend du caractère qu'on a. T'as des mecs qui subliment qui sont pas très bons à l'entraînement et meilleurs en match. Voilà. Moi, j'ai la chance de faire partie de ces gens-là. J'ai toujours été comme ça. Mais il y a quand même des gens, c'est pas le cas et qui doivent le travailler. Donc, c'est des trucs qui se bossent, ouais. Et c'est le même track, c'est sûr.
Je me posais la question, pareil, est-ce que tu as utilisé, toi, la musique comme méthode de coaching à des moments? C'est-à-dire que tu as un mec qui est complètement inhibé, tu lui mets du rock'n'roll, ou à l'inverse, il est trop énervé, tu lui mets un peu de classique pour qu'il se concentre ou...
Ouais, alors, ça, c'est vraiment une des relations qu'il y a. Tous les sportifs écoutent de la musique tout le temps, c'est sûr. Moi, je ne l'ai pas utilisé, juste le mettre un casque sur les oreilles avant, mais dans le préparer à un état d'être, c'est sûr. Voilà. Donc, ce soit pour redescendre parce qu'il y a trop de stress, c'est dans la vie de tous les jours pareil pour tout le monde. Mais tu vas écouter un truc plutôt cool, ou à quelques heures d'un événement important, on fait monter la sauce tranquillement et on part d'un truc mid-tempo jusqu'à faire monter un truc très fort. Quoi.
Ouais. Quitte à jouer aussi sur les pulsations?
Aussi, ouais.
Ouais.
Bah, ouais, bien sûr, ouais. Absolument.
Bah, tiens, on va faire. On parle de pulsation, on va peut-être se faire une petite pause musicale aussi pour découvrir ton univers artistique.
Yes.
On va écouter le titre Invisible, un titre un peu rock'n'roll justement.
Très bien.
C'est quoi la pulse là? 130? 120?
Ouais, je sais plus, plutôt vers 120 je pense. Mais c'est plus dans le son que ça attaque un peu.
Prestance que ma gueule. je m'applique, je fis, oh, avec une certaine élégance, j'aime le croire ainsi, je savonne de la planche, et toi, tu souris.
Vous êtes à l'écoute du LEM sur Radio Évasion, on est toujours avec Fred Sévère et avec son invité Pierre Decroux. On parle tennis et musique, et ouais, il y a un lien. Et peut-être que ce chaînon manquant, c'est Pierre Decroux justement.
Bon, alors tout à fait, et puis ceux qui ont loupé la première partie, réécouteraient le podcast, ça le fait aussi. Alors moi je sais que, comme tu fais partie de la scène rock bressoise, je vais te demander directement Pierre, si on parle un peu plus de ton actualité, de ta vie de musicien, elle est comment cette scène rock bressoise?
Voilà, c'est vaste.
Ouais, mais tu parlais, tu sais.
Elle est en ébullition. Il y a beaucoup de trucs qui se passent. Il y a beaucoup de groupes. Je pense que le confinement a accéléré encore plus ça parce que tout le monde s'est retrouvé et tout le monde a bossé dans son coin et on sent que tout le monde a envie de jouer et besoin de jouer. Voilà, je la trouve très. J'entends des nouveaux projets qui sortent partout. Il y a une scène rap qui monte énormément aussi. Ouais. Bon, c'est pas ma tasse de thé au départ, mais j'ai entendu des trucs très très bons au niveau des textes et tout. Donc voilà, je trouve que Brest, là, ça arrive très très fort. Hein. Il y a vraiment beaucoup de choses.
Et donc, toi par exemple, aujourd'hui, qui sont tes compagnons de chansons?
Ouais.
Voilà, parce que vous êtes une équipe, c'est un sport co là. Que tu
ouais,
fais,
là
toi.
C'est un sport co. Ouais. Moi, j'ai composé, écrit les trois quarts des trucs, mais une fois que ça c'est fait, j'ai pas envie de présenter des chansons juste guitare-voix. Donc, il y a Vincent Roudot qui est avec moi, que je suis allé chercher, qui est bassiste au départ, mais qui fait beaucoup plus que ça, et à qui j'ai demandé s'il voulait bien réaliser l'album. Donc, c'est lui qui tient un petit peu le cap de l'album. Si à un moment, on part à droite, à gauche, et on a eu des discussions au départ en parlant de couleurs musicales, etc. Donc, voilà. Donc, Vincent. Il y a Arnaud Ruest, que je connais depuis que je suis arrivé en Bretagne, c'est-à-dire ça fait un bon nombre d'années, qui fait les guitares. Il y a Lionel Prigent qui a la batterie au cœur et Hugo Éon qui fait du piano et des claviers.
Voilà. Ouais, moi je les avais rencontrés donc l'an passé, hein, et c'est vrai que vous êtes en résidence actuellement.
On commence demain, ouais.
Ouais, donc le but c'est de préparer un nouvel album.
Voilà, le premier album, en fait on a déjà enregistré quelques chansons et on retourne en studio courant mars. Sauf qu'en studio, il faut vraiment être prêt, donc on fait ce qu'on appelle de la pré-production. Là, moi, je vais présenter des morceaux qui sont guitare-voix ou piano-voix, et avec les gars, on décide, je vais voir comment ils ressentent les choses. Et en fonction de ça, en fait, c'est comment on arrange le morceau, qu'est-ce qu'on décide de mettre dessus ou pas. Donc il faut qu'on passe beaucoup de temps ensemble pour jouer et voir ce que ça donne. Et...
Ouais, répétez vos gammes, et puis peut-être aussi, alors moi je me posais la question, est-ce que par exemple toi aujourd'hui, comme un peu quand on part en stage d'entraînement par exemple, est-ce que tu sens une petite pression qui monte, ou tu sens que ça commence à t'occuper l'esprit, que tu as un objectif, t'es focus?
Ouais,
ouais.
Pression non, parce que j'ai qu'une hâte, c'est de faire ça, si je pouvais je le ferais, je passerais plein de mois à faire que ça tout le temps, mais je suis extrêmement focus, c'est sûr, ouais, j'ai extrêmement hâte que ça se fasse.
T'as été coach de tennis, mais est-ce que là sur ton projet... musical, t'es coaché? Dans le jargon, on dirait accompagné.
Ouais, mais accompagné par ces gars-là, par Vincent. Je suis coaché, je prends des cours de chant, figure-toi. Ouais. Voilà, et je travaille pas mal d'instruments, donc je suis assez coaché, ouais.
Et durant ta carrière tennistique, t'avais déjà la musique aussi qui te suivait, qui t'accompagnait?
J'avais l'envie de la musique. Enfin, la musique, je consommais, même si le mot n'est pas très joli, j'écoutais beaucoup de musique, ça me façonnait beaucoup. Mais j'ai commencé à avoir envie de m'exprimer moi-même, en fait. Donc c'était un petit truc dans ma tête.
Donc tu commençais tu gratouillais un peu déjà?
Ouais, je gratouillais, bien sûr. Ouais. Ouais. Mais entre gratouiller et franchir le pas et te dire je vais le faire, et puis voilà, c'est vrai que j'avais expliqué à Fred que quand j'ai décidé d'arrêter, que je me suis dit ok, j'y vais vraiment, c'est vrai que tu te retrouves devant une feuille avec ton crayon et tu dis bon... Ouais. Tu sais pas du tout comment on fait, quoi.
Pardon.
Non, mais je t'en prie, Pierre-Yves, c'est ton émission en même temps.
C'est quelque chose que tu transmettais dans ton entourage aussi, tennistique ou pas? Parce que là, en préparant ces émissions aussi, on aura peut-être un jour Eric Dimeco.
Ouais, j'ai pas parlé de lui parce que je l'ai contacté, il a pas voulu, il a pas répondu.
Ouais, mais écoute, ça prend du temps. Peut-être
c'est long, c'est long, ça viendra.
Ouais, ça viendra.
Et qui disait que il avait commencé à jouer de la basse parce que Eric Dimeco joue dans un groupe de reprises où ils reprennent que des tubes d'Oasis.
Fred m'a dit ça, ouais.
Et il était vu comme un ovni quand il se pointait avec sa basse dans le vestiaire de Marseille. Il faut imaginer la gueule des Olmeta et tout ça. Quoi.
Ouais.
toi, c'était pareil aussi un peu. Comment t'étais vu
Non, parce que bon, déjà j'étais assez discret sur ce côté-là. Mais ceci dit, il y a quand même pas mal de tennisman qui jouent un peu de musique pour ce qui concerne le tennis, qui en écoutent, ça c'est sûr, parce que tu passes quand t'es tennisman, tu passes ta vie à voyager, c'est-à-dire que t'es dans un aéroport en attente, dans un truc, tu passes ta vie à attendre en fait. Ouais. Enfin, les trois quarts
dans des endroits parfois aseptisés en plus. Voilà. Il y a intérêt à avoir un peu d'imagination sinon.
Exactement. Et il y a quand même pas mal de mecs qui gratouillent, qui font ça. Donc ça, non, c'est moins un ovni que je pense que dans le foot, comme Dimeco. Ouais.
Et puis moi je me demandais, parce qu'une question que j'avais repérée avant l'émission, c'est est-ce que tu as retrouvé toi dans la musique une forme de compétition aussi? Parce que l'aspect compétitif, est-ce que toi tu l'as ressenti?
Ouais. Très bonne cette question.
Pas du tout, non. Mais j'ai pu la sentir un petit peu, mais j'ai pas du tout envie d'aller sur ce terrain en fait. Je fais pas du tout de la musique pour être dans de la compète. J'ai plutôt un truc très bienveillant avec plein de musiciens brestois, puisque je suis à Brest. Non, au contraire. C'est un truc très bienveillant et je veux pas entrer dans la compétition. Moi, je pense qu'il y a de la place pour tout et pour tout le monde. La seule compétition, c'est avec toi-même de trouver ton propre langage. Où est-ce que je suis? Qu'est-ce que je veux faire, quoi? Ça qui est intéressant. Le reste, au contraire, je trouve ça super motivant. Si voir, il y a des potes à côté qui avancent ou écouter un bon morceau, ça me donne plein d'énergie. Mais c'est pas de la compétition, non.
Ouais. Ouais. Exigeant avec soi-même, c'est déjà suffisant.
Ouais, c'est
tout un programme.
Mal, ouais.
Pareil, moi, je sais que tu me parlais de plein d'anecdotes qu'on s'est rencontrés, mais tu me décrivais aussi le rocker brestois comme quelqu'un qui a la tête dans les étoiles, avec les pieds un petit peu dans ses petits problèmes. Alors du coup, est-ce que c'est toujours l'analyse que tu fais, ou est-ce que le monde évolue aussi au niveau de la scène brestoise?
Ah, je sais pas.
Tu sais pas. Non, c'est vrai que le Covid, ça a un peu calmé tout le monde, tu vois, aussi en termes de projets et autres. Et là, ça redémarre. Donc, est-ce que tu disais qu'il y a des nouveaux projets qui émergent aussi? Est-ce que l'identité se modifie un petit peu, tu sens?
Oui,
aussi...
mais je pense que l'identité se modifie, c'est sûr, puisque là, c'était un truc peut-être des années, des débuts de... Je parlais pas mal du début de Miossec et tout ça.
Non, ouais, bah, on voyait bien le truc.
95. Ouais. Voilà, du coup, je parlais de la scène rap là. Les jeunes évoluent. Enfin, tout évolue. Le monde bouge énormément. Sûrement, ça doit évoluer. Mais je pense pas que le Covid ait calmé, moi. Je pense pas que, au contraire, je pense que les gens ont encore plus envie de s'exprimer. Je pense qu'on l'a vu ça dans des reconversions au-delà de la musique. Il y a plein de gens qui se sont posé des questions sur la façon dont ils vivaient. Qui se sont dit putain, à quoi ça rime tout ça. Moi j'ai croisé plein de gens qui avaient changé de métier ou qui sont en passe de le faire, et pour la musique, et ben je pense que ça encore plus de monde, peut-être des gens qui hésitaient, qui ont eu plus de temps, ils s'y mettent. Enfin, je crois qu'à long terme ça va donner plein de choses.
Merci beaucoup Pierre d'être venu jusqu'à nous pour
merci beaucoup de m'avoir accueilli.
Merci Pierre.
Ben, parler musique, parler tennis, c'était cool, fallait relier le sujet, c'était chouette.
Ouais, c'est la petite pause un mercredi par mois.
Merci beaucoup, c'est chouette.
Et juste avant de terminer, peut-être tu l'as évoqué, là pour l'instant tu es toujours en travail de résidence, ça veut dire que sur le moyen, long terme, il y a un album qui arrive?
Bah c'est ça l'idée, ouais. Okay. Absolument. Je ne sais pas quand ce sera, si ce sera dans l'été,
alors, mais... Avant, après?
Je ne sais pas, on aura fini d'enregistrer en mai, on va mixer ça derrière... Après, il y a des embouteillages partout pour sortir des trucs. Après, c'est un autre boulot qui rentre en jeu, je vais voir.
Après, on peut te suivre aussi, si tu publies quelques photos ou expériences, si les gens veulent aller voir. Bon.
Un petit peu.
Un petit peu.
Eh bien, merci beaucoup, Pierre.
Merci beaucoup de votre accueil.
L'émission. Sur Radio Évasion. Creuser le Finistère, labourer les circuits courts, plonger au fond.